Alors, le moulin est en activité jusqu'en 1920. Il n'y avait pas de pont à l'époque et Lille avait son propre blé.
Et ils les mettent à combien ?
1 150 000. Mais ils sont pressés, on peut l'avoir 1 000 000.
Évidemment, on rentre dans le raisonnable.
Mais enfin, tu plaisantes. 1 000 000 d'euros pour une maison comme ça, c'est donné.
CO2, mon amour.
Cette maison-là, je n'achèterai pas. Et si tu veux vraiment savoir, je n'aime pas l'île de Ré, je n'aime pas les familles cathos, je n'aime pas les enfants blonds sur leur vélo. Pour moi, c'est l'horreur. C'est l'anti-jouissance, c'est l'anti-sexe. Moi, j'aime le soleil et ici, on se les gèle.
Je regrette, l'été dernier, on a eu un temps splendide. Vous savez, on a un micro-climat sur l'île.
Avec Denis Chessou.
Moi, ce que je veux, c'est de la chaleur. Ce que je veux, c'est pouvoir me balader en string toute la journée si ça me chante.
En attendant, l'île de Ré est classée numéro 2 comme lieu de vacances préféré des Français. Hein.
Sur France Inter.
Allez, un petit extrait d'Alceste à bicyclette pour vous saluer. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine très nature, mais toujours aussi d'environnement. CO2 mon amour avec Tiffany Battistel aujourd'hui à la technique et assistée de Camille Blanès. C'est Xavier Bessugia qui réalise l'émission. Alors, reporté en mai, le sommet de Davos, donc les pieds dans la neige, qui réunit la crème du capitalisme international et de très nombreuses ONG, eh bien, a quand même sorti son rapport annuel sur les risques globaux. Risques sanitaires et dangers de l'inaction climatique apparaissent en tête du top 10, ça va pas vous étonner. Et là, j'ouvre les guillemets. Une fois de plus, les risques environnementaux dominent par l'impact et la probabilité dans les 10 ans à venir. La fracture sociétale et l'incertitude rendront plus difficile la coordination nécessaire pour faire face à la dégradation continue de la planète. Alors, je viens de vous citer le magazine Forbes, hein, pour ne pas être taxé d'écologisme primaire, un magazine qu'on associe assez rarement à un manuel de collapsologie. Alors, depuis une quinzaine d'années, si vous voulez une métaphore, eh bien, c'est l'histoire d'une petite panique qui s'empare doucement de vous. Confortablement installé sur les banquettes moelleuses du wagon Pullman, vous rêviez, embrumé par les volutes de fumée de votre cigarette. Et étrangement, au fond de votre verre de cognac millésimé, les glaçons se mettent à tinter, à danser de belle manière, de façon inquiétante même, au point qu'après quelques secondes d'étonnement, la pique d'une onde brûlante se met à vous grimper dans la moelle épinière. Ce train va visiblement trop vite, d'une façon désordonnée qui vous échappe et peut-être aussi à son conducteur. Et dans le paysage qui défile à toute allure, vous ne pouvez plus reconnaître aucun détail précis du monde paisible que vous avez toujours connu. Et impossible d'ouvrir la fenêtre pour jauger la situation. Et pericoloso, spangessi! Dans ces voitures de luxe climatisées, on ne sent pas la température extérieure. L'immense convoi que vous avez lancé à toute allure à la conquête de la planète semble hors de contrôle. Les passagers mal réveillés déferlent dans les couloirs. On se rassemble comme les rats des légendes. On s'informe. Un rapide état des lieux vous le révèle. Personne ne sait où sont les freins, ni ne connaît la façon de s'en servir. Ni même s'il a été envisagé au départ un quelconque système de freinage dans le fonctionnement d'aussi performantes locomotives. Et même contre tout enseignement des écoles de commerce d'antan, il faut sacrément ralentir ou sauter en marche, changer le cap de ce monde insensé. Voilà ce que nous dit donc ce rapport en filigrane. C'est un peu comme si l'aigle, ayant chassé tous les lapins et marmottes du territoire, s'apercevait qu'il va disparaître, ce qui n'arrivera pas. Car l'aigle n'est pas si bête. Sans les lapins et les marmottes, il n'existerait pas. Nos capacités de résistance et d'invention, il faut se le dire, sont extraordinaires, même au milieu de la casse et des effets de bascule que l'on ignore. Entre possible et impossible, disait De Gaulle, il n'y a que 2 lettres de différence. Alors vous le savez, dans cette émission, eh bien nous donnons la parole à la nature, aux animaux. D'ailleurs, la semaine prochaine, eh bien je vous ferai découvrir les lynx. Ouais, on partira dans le massif du Jura. Donc les animaux, la nature et aussi les territoires. Là, je clique sur le nord de Paris, Val d'Oise, Seine-Saint-Denis. Ah, alors là, ça va être l'histoire du pot de terre cultivable et nourricière contre la toupie à béton, direction donc le triangle de Gonesse. Mais auparavant, ah, on aime ça. Bah oui, la musique sur France Inter. Et celle-là, elle est bonne.
J'avais du soleil. J'avais du soleil. Impression, soleil levant. Un frisson à l'éveil du vent. Les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Les bimbos toquent, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur ma Laura. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura, ma Laura. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable. Allongé sur son drap bleu. Jaloux du soleil. 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 Jaloux du soleil.
Ouais, c'est un beau métier d'ailleurs, soleil, hein, 4 milliards et demi d'années au compteur, elle va continuer encore un petit peu. Et puis bah si vous êtes un peu dehors, c'est excellent, vous le savez, pour fixer la vitamine D. Donc c'était Souchon, nous partons où cela? Eh bien du côté du triangle de Gonesse.
Sur les plans, lorsqu'on regarde bien, les bétonneurs et les aménageurs de tout poil voient une zone blanche qui est ni sur la Seine-Saint-Denis, ni sur le Val-d'Oise, puisque c'est aux confins des deux. Et ils ont toujours envie d'y mettre quelque chose. On a failli avoir le circuit de Formule 1 de Flins, on a failli avoir tout un tas de choses. Parce qu'en fait, quand ils regardent, ils disent « bah là, il n'y a rien ». Alors que si c'est des ingénieurs agronomes qui regardent, ils disent « là, il y a des milliards d'êtres vivants à cet endroit-là ». Et donc là, c'est une vision de la société qui est complètement différente. Avec les lunettes avec lesquelles on regarde, on voit pas la même chose. Et donc, c'est vrai que lorsque Auchan arrive en disant « nous, on va vous amener tant de milliers d'emplois », et ben sur un endroit où il n'y a rien, ben, ça intéresse le maire de Gonesse. Et nous, on s'aperçoit, depuis la COP21, ben, qu'on a ici une richesse patrimoniale, mais une richesse climatique, puisqu'on sait maintenant que si on avait bétonné le triangle de Gonesse, on se retrouve avec une augmentation en période de canicule de 2 ou 3 degrés sur Paris.
Alors, petit portrait positif aujourd'hui de ce territoire en lutte au nord de Paris, vous l'avez compris, symbolique du no-limite du modèle actuel bouffeur de terres agricoles. Alors, certes, dans tous les discours, luttons contre l'artificialisation du territoire, mais bien sûr, et laissons prospérer les plateformes, Amazon et les autres, et les infrastructures diverses et variées. Transitons, changeons, oui, mais prenons notre temps et assouplissons les lois environnementales. Alors, Europa City, c'est fait, ça c'est plié, Emmanuel Macron s'y est opposé, comme à Notre-Dame des Landes. Mais le combat continue, car vous allez comprendre que la Société du Grand Paris annonce la reprise des travaux du nœud gare. Nous allons écouter Alice Leroy, qui est la secrétaire générale de Karma. Ah, qu'est-ce que Karma ? Coopération pour une ambition agricole, rurale et métropolitaine d'avenir. Elle est aussi professeure d'écologie urbaine à l'université Sorbonne Paris-Nord. Il y aura Michel Bastien, qui est un ancien ouvrier de PSA et habitant de Gonesse. Rabah Belchachir, qui est aussi habitante de Louvres. Et puis, tout de suite, Jean-Yves Souben, ancien proviseur et vice-président du collectif pour le triangle de Gonesse.
Alors, ici, on a des terres arables les plus riches qu'on peut avoir en France et certainement en Europe. on a entre 6 et 8 mètres de terres arables. Et la moyenne en France, c'est entre 30 et 35 cm. Hein, c'est pour ça que dans le Larzac, avec 5 cm, on fait surtout de l'élevage de moutons. Ici, on fait pousser n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est des terres à céréales, notamment à maïs. Et il n'y a aucun dispositif d'arrosage. Alors que partout où il y a du maïs, on voit toujours des dispositifs d'arrosage. Ici, il n'y en a pas parce que les terres, elles sont gorgées d'eau, de l'eau qui remonte à la surface. Et avec l'évaporation, c'est ce qui permet d'avoir une fraîcheur qui souffle sur Paris. Le vent du nord-est souffle cette fraîcheur sur Paris. On a fait des mesures cet été. On avait 8 degrés d'écart entre la température sur le triangle et la température devant l'hôtel de ville à Paris.
Alors ce fameux triangle de Gonesse donc, faisait partie de cette ceinture maraîchère. On peut citer donc, d'autres communes comme Montreuil, comme Stein, comme Romainville, comme Pierrefitte, etc.
À Saint-Denis, il y avait des entreprises Carsanté qui faisaient du maraîchage.
Alors on parle du maraîchage, mais enfin, il y avait aussi le pain. Hein. Le pain. Gonesse était très connu avec un très bon pain au XIIIe siècle.
Le pain de Gonesse était très célèbre. Et puis nous, on en a parlé dans notre lutte au sein du CPTG, on en a parlé, on l'a popularisé un petit peu pour faire savoir la qualité des terres ici. Et finalement, il y a pas mal de gens maintenant qui viennent à Gonesse ou même sur Paris qui demandent chez les boulangers le pain de Gonesse. D'accord. Donc on est en train de le remettre un petit peu à l'honneur.
Et du blé qu'on a trouvé il y a 2500 ans.
Hein. Alors ici, il y a eu des fouilles préventives. Voilà. Avant les travaux, il y a toujours des fouilles préventives. Et on a passé une journée avec un chercheur de l'INRAP qui nous a montré notamment des silos à grains. Et là, c'était fantastique parce que la région permettait de cultiver des céréales, mais surtout permettait aussi de les conserver. Et ça, c'est un des atouts. Et on sait maintenant que si la capitale s'est installée dans cette région, c'est grâce à la capacité de ces terres à produire du grain et à le conserver dans des silos. Les silos qu'ils ont trouvés ici remontent à 2500 ans, au néolithique, hein, donc avant les Gaulois.
Évidemment, avant la construction de Paris, on s'en doute bien.
Voilà. Alors, en fait, le fait que ces terres-là soient encore gorgées de ces silos à grains, on pourrait se demander légitimement qui a le droit de toucher à ces terres, alors que depuis 2500 ans, elles nourrissent des gens et elles ont amené la création de la capitale de Paris. Hein, donc, est-ce qu'on a le droit, comme ça, pour faire une zone industrielle, pour faire une gare ou pour faire un centre commercial, est-ce qu'on a le droit de toucher à quelque chose qui fonctionne depuis 2500 ans ?
Non. Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
C'est les voitures, c'est pour ?
Ah bah, on fait un reportage pour France Inter.
D'accord, il faut ressortir les voitures.
Ah oui, il n'y a aucun problème. On a des rendez-vous derrière, donc ne vous inquiétez pas.
Très bien, bonne journée à vous, bon courage.
Merci.
Bon, donc la police municipale qui fait son petit tour, parce que j'imagine bien que quand même dans votre collectif, vous avez dû être un tout petit peu fliqué, quoi. Voilà.
Bah, on essaye d'entretenir des bons rapports avec la police nationale ou la police municipale. Oui, oui, ça va. Ils font leur boulot, mais ils savent bien que sur le fond, c'est nous qui avons raison. Donc voilà, ils essayent de faire ça gentiment.
Ils nous le disent assez souvent, quoi. Que peut-être qu'on a raison de défendre cette terre.
Et puis Alice Leroy, on est quand même aussi sur une trame verte. Puisque maintenant on en parle de ces fameux corridors biologiques qui est extrêmement important parce qu'on a donc des forêts, on a des lisières, on a des parcs.
Oui, là il y a quelque chose dont on se dit qu'il faut le protéger. Il y a la fertilité de la terre, mais il y a aussi un paysage qui serait possible. Là pour le moment c'est de la monoculture intensive, mais si on regarde un peu ailleurs, si on regarde d'autres villes en France et puis un peu à l'étranger, ce qu'on s'emploie à faire, si on regarde Milan, Barcelone, ces terres à proximité des villes sont protégées et participent effectivement de la recréation de la ceinture maraîchère et de paysages qui sont des paysages nourriciers. Donc quelque chose qui permet de nourrir les habitants au plus près. Hein. On parle beaucoup des circuits courts, mais là, on a une occasion d'en recréer. Et puis de paysages, on pourrait se promener. Hein. Là, Jean-Yves vous a parlé, il vous a montré une photo de lui petit dans les bras de sa marraine, hein, dans les champs de tulipes. Eh bien, les champs de tulipes, les gens les fréquentaient. Il y avait des gens qui cultivaient les fleurs. Et ça fait partie du projet Karma, notamment de recréer cette filière horticole en Ile-de-France. Les gens se rendent compte que les fleurs, c'est un produit extrêmement toxique. Les fleurs qu'on fait venir par avion... Ouais, d'Éthiopie, de Colombie, avec des conditions de travail effroyables.
De ce projet de pouvoir de nouveau avoir de l'horticulture ici.
Oui. Dans le projet Karma, il y a pas mal de choses auxquelles on réfléchit, parce que c'est pas un projet ficelé, c'est un projet qu'on veut monter avec les agriculteurs du Triangle et qu'on veut monter avec les habitants. Je crois que tout le monde en a marre de ces soucoupes volantes. Hein. On parle de soucoupes volantes parce que Europa City, ça ressemblait à une soucoupe volante. Hein. Le projet de centre commercial, il était complètement refermé sur lui-même. C'était un mall, comme on dit, un shopping mall avec du marketing expérientiel. Et là, je crois que vraiment, tout le monde en a ras-le-bol de ça. Et ce qu'on veut, c'est des paysages nourriciers, des lieux de balade, des lieux où on peut se rencontrer. Voilà, karma, c'est un peu tout ça.
La décision a sonné comme un coup de tonnerre dans les rues de Gonesse. Ce matin, beaucoup de déceptions après l'abandon du futur centre commercial géant Europa City, qui aurait pu créer jusqu'à 10 000 emplois.
Je suis vraiment très triste, parce que je trouve que pour les jeunes, moi j'ai 3 petits-enfants, je trouve que c'était quand même certainement des emplois.
D'autres habitants, en revanche, saluent ce qu'ils jugent être le bon sens écologique.
Il y a d'autres moyens de travailler que de détruire la planète qui nous entoure et qui nous a si gentiment donné tout ce qu'elle nous donne.
Alors la première marche, donc, vous l'avez gravie, c'est-à-dire qu'il y a une bataille qui a été gagnée. Vous avez donc sauvé ces 280 à 300 hectares donc, sur ce centre complètement dément d'Europa City. Mais en fait, là, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois quand même des travaux de préfiguration de la gare qui aurait été payée totalement par les contribuables pour arriver donc sur Europa City. Mais ça veut donc dire que ce n'est pas fini cette affaire.
Ce n'est pas fini. Il va falloir que les citoyens continuent à se mobiliser parce que l'abandon d'Europa City, donc, qui a été acté début novembre 2019, ne s'accompagne pas de l'abandon de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore la possibilité, ils appellent ça un scénario d'urbanisation, et dans ce scénario d'urbanisation, ils prévoient une gare qui est une sorte de cheval de Troie, en fait, du béton, parce qu'on ne fait pas une gare pour desservir
non,
des champs.
Exactement, ça veut dire qu'on peut avoir des bureaux, des habitations, etc.
Alors, si jamais ils font une gare en plein milieu de ces champs, déjà, ça servira pas aux Gonessiens. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on essaye de faire croire que ça pourra servir aux Gonessiens. L'habitation la plus proche, elle est à 1,7 km d'ici. Donc en fait, ça ne servira pas aux Gonessiens. Mais si on fait une gare en plein champ, il faudra bien lui trouver une utilité. Et l'utilité, puisqu'il n'y a plus Europa City, donc on lui trouvera une utilité. Le pire serait qu'on fasse un parking autour. Il était prévu dans la ZAC 800 000 m² de bureaux, 2700 chambres d'hôtel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous pendre au nez. Ouais.
Alors moi, je suis Rabat et je suis co-secrétaire du collectif pour le tramway de Gonesse, auquel ont adhéré un certain nombre d'associations et des particuliers, ouais, dont je suis. Et donc moi, ce qui me motive, c'est que moi, ça me fait physiquement mal au... Ça me fait vraiment mal au ventre d'imaginer, ouais, qu'on puisse tuer la Terre. Ouais. Et ce projet, enfin Europa City, comme la gare, c'est ça, concrètement, c'est ça. C'est qu'on va tuer la Terre, vraiment, et c'est vraiment trop douloureux, quoi.
Alors Michel Bastien, vous êtes aussi une cheville discrète, mais extrêmement efficace, parce que, en fait, vous apportez des informations. Hein, donc,
Oui, je suis gonessien et je suis né dans un milieu rural. Et on m'avait dit à l'école, les bonnes terres, c'est dans leur nid de France. Quand j'ai appris qu'on allait bétonner les bonnes terres, c'est de là que j'ai dit, tiens, je leur donne un coup de main. Je vais venir surveiller et je leur ai même informé que les travaux de la gare avaient commencé. Ils avaient commencé à passer les tuyaux des eaux usées, qu'ils ont même à ce jour raccordé au réseau de ça, du coin de la ville.
Vous êtes une vigie, quoi, ici. Hein,
voilà.
Vous montrez cet élan, cette capacité d'invention pour une autre transition. Ben voilà, c'est l'ambition aujourd'hui de ce reportage. Restez avec nous, on continue, on n'a pas fini. Walking down the street, or walking on the moon. What's it matter, out of my cocoon. Step into the sunshine, man it feels good. And bees jamming, a theme for the neighborhood. Are we alright again? Are we around the bend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright again? Yeah, I think we're alright. Think you could. Birds and bees jamming, their tune for the neighborhood. Far. Are we
it over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you want to be.
Pioché dans la playlist par Thierry Dupin, c'était le groupe Else. Alors quand vous ne savez pas trop quoi dire, vous dites que c'est un groupe rock alternatif indépendant. Vous voyez, comme ça le fait, ils sont américains, ça j'en suis sûr, de Los Angeles, ce qui veut dire qu'avec le réchauffement climatique, leurs instruments de musique risquent d'avoir chaud aux fesses.
Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille?
CO2, mon amour.
Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre.
Denis Chessou.
Et puis après, avec l'humidité, j'y crois.
Sur France Inter.
Ah oui.
Oui, ça marche toujours. Ça marche toujours. C'était notre petit clin d'œil, on va dire, naturaliste aujourd'hui. Nous revenons sur ces centaines d'hectares de ce triangle de Gonesse qui représente, on l'a compris, un maillon assez unique dans cette trame verte de l'agglomération parisienne. Ça relie les zones forestières au grand parc urbain. Ça sert aussi de climatiseur. Alice Leroy de Karma. Donc, ces terres, elles appartiennent à qui?
Alors, elles appartiennent à plusieurs propriétaires, quelques grands propriétaires, notamment l'établissement public foncier d'Île-de-France qui avait commencé à exproprier des exploitants. Elles appartiennent dans le nord du triangle à AXA, hein, une grosse entreprise.
C'est là pour faire de la spéculation, a priori.
Qui, au départ, voulait faire quelque chose de ces terres et maintenant, qu'il paraît possible de les classer en zone agricole protégée sur l'ensemble du triangle, ça n'est le cas que sur le nord, hein, sur ce qu'ils appelaient le carré agricole. Eh bien, nous, enfin, de nombreux citoyens, on pense que c'est possible de faire la même chose sur le sud du triangle et de faire ici ce que tout le monde raconte. Tout le monde dit qu'il faut faire de la transition agricole et écologique. Eh bien, nous, on dit chiche, on va le faire ici. On va le faire là où il y a des taux de chômage extrêmement élevés, de précarité.
On va se planquer un tout petit peu parce que là, il y a ce qui flotte. C'est bon, là, on comprend que le terrain soit bien arrosé.
Alice, le projet Karma, sa philosophie, qu'est-ce que c'est en fait?
La philosophie du projet Karma, c'est d'avoir vraiment un projet d'économie circulaire. On part de la production, donc des champs. On transforme les produits sur place, on les distribue. Donc l'idée forte, c'est d'alimenter la restauration collective. Donc c'est les cantines scolaires, c'est les EHPAD, l'hôpital. Ouais. Il y a un gros hôpital à Gonesse. Et là, c'est la priorité pour que ces personnes puissent avoir des produits sains, de saison, de qualité. Et puis,
on aura aussi d'ailleurs du bio, parce que quand même depuis le 31 décembre 2012, on a un petit peu oublié, mais enfin il y a une obligation de 20% de bio.
Exactement, il y a la loi d'orientation 2014 qui nous dit 50% de produits labellisés et de produits bio.
Et hein, aujourd'hui d'ailleurs, les restaurateurs n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas assez de matière.
Exactement, donc là on se dit que la priorité c'est vraiment de sauver ces champs, et puis du champ à l'assiette, et puis ensuite de l'assiette au champ, on boucle la boucle en valorisant les déchets organiques sur place.
Méthanisation aussi?
Exactement, on réfléchit à une petite unité de méthanisation. On réfléchit à beaucoup de choses qui permettent de réellement créer cette économie circulaire.
Alice Leroy, alors quel projet on propose?
Alors on propose un projet pour le territoire et pour et avec les habitants. Au départ, la question principale, c'est qu'il faut sauver les terres. Il faut garder les terres à côté des villes pour nourrir les habitants. La deuxième chose, c'est développer l'emploi de la transition écologique. On sait que la transition écologique, elle est très dense en emplois locaux, donc non délocalisables. C'est une palette de métiers beaucoup plus variée que, par exemple, ce que proposait Auchan avec Europa City, où il y avait très peu de métiers qui étaient proposés. Donc là, c'est les métiers de la réparation, de la mobilité durable, c'est les métiers autour du vélo, autour des moteurs électriques, toutes ces choses qui se développent en ville. C'est par exemple la pose de double vitrage, par exemple, dans les maisons.
Et Dieu sait si c'est nécessaire ici, hein, de toute façon, avec Roissy et le Bourget, quoi.
Exactement. Il y a une exposition au bruit qui est très forte. Et puis, il y a la question de la précarité énergétique. On sait qu'il y a des millions de ménages en France qui ont du mal à payer leurs notes. C'est l'absurdité de chauffer le ciel quand on peut avoir des logements correctement isolés et avoir un confort chez soi. Et là, c'est des métiers.
Alors on va vous dire, faire de l'agriculture c'est très bien, mais il y a la proximité de Roissy, il y a la pollution, il y a le kérosène, c'est ce que disent les élus, ça.
C'est ce que disent certains élus. Ouais, certains élus pensent qu'on ne peut pas cultiver à côté des aéroports. Ils oublient qu'un des meilleurs maraîchers d'Île-de-France, Marco Massetti, qui alimente le marché de la place Monge, il cultive sous les avions d'Orly, parmi les meilleurs produits qu'on puisse trouver en Île-de-France. C'est oublier qu'à Barcelone, il y a un grand parc agri-urbain sur des milliers d'hectares qui alimente le marché local à Barcelone. Et c'est sur le territoire de l'aéroport international.
On va rappeler que c'est davantage des pesticides qui seront peut-être un peu plus dangereux que le kérosène, non, c'est ça?
Alors nous on attend quand même que des études de sol soient faites, précises, hein, parce que c'est un territoire où on ne sait pas forcément tout ce qui s'y est fait. On sait que les infrastructures routières, elles sont très polluantes. Et donc là, il est nécessaire de créer des zones tampons entre les autoroutes, entre les routes et les champs. Mais sous les aéroports, on sait qu'on peut cultiver.
Et en fait, c'est surtout la qualité de la terre qui fait la régénération de cette terre et qui transforme cette pollution en intrants et qui permet justement de lutter contre cette pollution. Plus la terre est pauvre, et moins elle se régénère. Alors qu'ici, on est sur une terre arable qui fait entre 6 et 8 mètres d'épaisseur. Donc elle a cette capacité d'absorption, justement.
Alors on n'est pas sur du bio, hein, quand même, ici, loin de là.
Alors pour le moment, on n'est pas sur du bio, mais les céréaliers ici, ils ont un avantage, comme la terre elle est excellente. Les pieds de maïs, par exemple, qui se plantent à 17 cm dans les Landes, eh ben ici, il les plante à 7 cm. C'est-à-dire que comme ils servent... Les uns des autres. Donc comme ils servent bien les pieds de maïs, eh ben ils ont très peu de mauvaises herbes et ils n'ont pas besoin de mettre beaucoup de pesticides et d'herbicides sur leur culture.
Peut-être qu'ils mettent d'autres pesticides, en tout cas ils mettent pas des herbicides.
Ici, il faut voir que l'orge ou le blé, quand ils le font pousser, il a des rendements à l'hectare qui est bien supérieur au reste de la France, à la moyenne nationale. Donc en fait, les céréales sont beaucoup plus serrées et donc beaucoup plus protégées des herbes qui pourraient être des herbes parasites.
Des pioches et des graines pour ces cultivateurs manifestants. Des sauveteurs de terre, selon leurs propres termes. Depuis 10 mois, ils cultivent cette parcelle de 3 hectares prêtée par un propriétaire. Car pour eux, ce terrain est emblématique.
Le plus important, c'est de garder ces terres pour nourrir la capitale, et les profits des spéculateurs fonciers, ça doit passer après. C'est ça le bon sens. Et donc, si on a le bon sens avec nous, on ira, bien entendu, jusqu'au bout. Moi, je suis né ici, je suis né à côté de ces terres, et j'ai bien l'intention de les défendre jusqu'au bout, bien sûr.
Alice Leroy, comment fait-on, puisque donc ces terres dont ne vous appartiennent pas, appartiennent à du privé, pour pouvoir espérer avoir donc un projet de territoire intéressant?
Eh bien, nous, on espère que la déclaration d'utilité publique qui avait été prise pour faire un centre commercial géant, une piste de ski artificielle...
C'est vrai qu'il y avait la piste de ski, quand même.
Oui, un centre aquatique climatisé. Ouais, un super, très, très beau projet. Ben, on espère que cette... je suis ironique, bien sûr. Que la déclaration d'utilité publique qui avait été prise pour faire ce projet complètement aberrant, complètement daté et dépassé, c'est le président de la République qui a fini par le reconnaître, début novembre. Eh bien, on espère qu'une déclaration d'utilité publique sera faite pour que ces terres, elles deviennent un bien commun.
Donc, vous espérez ce que, dans le jargon, on dit une ZAP, hein, c'est une zone d'agriculture protégée.
Oui, on espère que ces terres, elles seront enfin considérées pour leur fertilité. C'est trop dur de voir, alors qu'on sait que ça climatise l'air, hein, c'est une sorte de climatiseur naturel. On vit des canicules de plus en plus dures, qui se répètent de plus en plus. Et là, ces terres, elles peuvent nous nourrir, elles peuvent servir comme lieu de promenade, elles peuvent servir aussi comme lieu de formation à l'agroécologie. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à nos ZAD dimanche, qui viennent à nos événements et qui disent « Nous, on a envie de devenir maraîcher urbain, on a envie de devenir éleveur urbain, où est-ce que je peux m'inscrire ?» Et là, les lycées agricoles, ils n'arrivent pas à répondre à cette demande-là. Donc ce qu'on voudrait, c'est un campus des métiers de la transition écologique. Tous ces métiers de la réparation, les métiers de l'agriculture, les métiers de la mobilité durable.
Alors là, on se met à l'abri, on râle un petit peu, mais en fait, c'est un atout quand même, le vent ici. Donc, hein.
Bah oui, parce qu'en été, on est bien content d'avoir ce vent. C'est un vent qui est continental, notamment en période de canicule, qui vient du nord-est, qui passe sur le triangle, qui prend toute l'humidité du triangle et qui l'envoie sur la capitale et sur les zones urbaines denses et qui, heureusement, fait baisser un petit peu la température en cas de canicule.
Ok, bon, nous on gèle, mais enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein.
Bah oui, en hiver, on a la contrepartie. Oui.
On est quand même pas loin du Bourget. Souvenez-vous, le Bourget, la COP21, c'est là qu'on avait signé l'accord de Paris.
Ouais, et du coup, je crois qu'on peut se dire qu'ici, on a une responsabilité particulière pour nos enfants, nos petits-enfants, de protéger ces terres et de les leur laisser en bonne état. l'État, si possible avec un beau paysage, avec des métiers qui ont du sens. Il y a un chercheur qui a parlé en parlant de ce territoire, il a dit c'est le territoire des accords de Paris.
Et ça serait un signe, justement, de garder ces terres agricoles. Ça serait un signe...
Ce que veulent beaucoup de Français, d'ailleurs.
Bah oui, on a un petit sondage du WWF France, là, qui dit que 78% des Français sont favorables à un moratoire sur l'artificialisation des terres agricoles dès 2020. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'on attend. Hein.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs aussi la Convention citoyenne sur le climat. Alors on va donc poursuivre ce voyage, cette fois-ci en direct parce que vous êtes sur le Triangle. Bonjour Alice Leroy. On vous entend. Alice, êtes-vous là? Alice Leroy. Bon, elle cause, je ne sais pas très bien. Alors c'est pas grave. Non, vous avez. Est-ce que Marie est là? Sinon, est-ce que nous avons Marie? Êtes-vous là, Marie Proie?
Oui,
bah, très bien. Bah, vous voyez, c'est ça, c'est les joies du direct. Alors, on vous a aussi, parce qu'en fait, vous êtes une maraîchère qui va s'installer. Vous avez une trentaine d'années. Et vous allez d'ailleurs vous installer sur le chemin des Cressonnières, ce qui nous rappelle qu'il y avait des Cressonnières, donc il n'y a pas si longtemps, sur un territoire de 2 hectares. Alors, vous êtes fille, vous aussi, donc, de maraîcher. Là, vous allez passer votre brevet professionnel agricole pour pouvoir véritablement exercer. Votre papa, il a été exproprié il y a une quinzaine d'années. Donc, à la place, bah, il y a le roi Merlin, il y a encore d'autres grandes de surface. Et ce qui nous intéresse bien, c'est un peu vos motivations, parce que en fait, vous veniez du milieu de la pub avant.
Oui, exactement. J'ai fait mes études en communication et puis j'ai travaillé quelques années en agence de publicité pour des grandes marques. Et puis en fait, je ne suis pas restée longtemps parce que très rapidement, je me suis rendu compte que je trouvais pas tellement de sens à ce que je faisais et en fait l'univers que je connaissais dans la publicité de ma vie parisienne je la mettais toujours en comparaison en fait avec ce que j'avais vécu quand j'étais petite, voilà, du coup à Gonesse, moi j'ai grandi à la ferme, mon père était agriculteur, son père était agriculteur et son grand-père aussi, donc voilà, c'est ma grand-mère qui vendait les légumes, je me souviens de personnes qui arrivaient pour ramasser les pommes de terre l'été, enfin...
Ça a été un peu un choc frontal, quoi. On va dire entre deux mondes. Et puis après, vous avez dit, voilà, vous avez bien reposé la question du sens. C'est d'ailleurs celle que se pose énormément aujourd'hui de nos amis qui nous écoutent, enfin nous tous les uns et les autres, dessus. Donc la suite, qu'est-ce que ça va être, hein?
La suite, en fait, là, avec mon père et mon frère aussi qui nous a aidé là toute cette année pendant 2020. En fait, on s'est installé, on a relancé, si vous voulez, les cultures légumières en janvier 2020. On a commencé à vendre nos premiers légumes à la sortie du confinement, premier week-end de déconfinement. Et la suite pour nous, c'est de continuer à cultiver des légumes. À les commercialiser à Gonesse et par le biais...
Donc autour en circuit court. Ce que je vous propose, là, pardonnez-moi Marie, parce que éventuellement une fois, je viendrai donc vous voir, mais là nous avons donc récupéré, nous avons en ligne Alice. Bonjour Alice Leroy, êtes-vous là?
Bonjour
Alice.
Denis.
Eh ben voilà, c'est très bien. Non, je sais que vous étiez entouré, parce que là vous êtes donc avec les amis de Karma, avec les amis du Triangle de Gonesse. Donc qu'est-ce qui se passe le dimanche, là où vous êtes en ce moment?
Alors on fait ce qu'on appelle une ZAD dimanche, c'est une zone à défendre. Donc les citoyens, les citoyennes d'Île-de-France donnent rendez-vous ici pour découvrir ou redécouvrir ces terres qui sont déterminées à défendre contre un projet de gare, de bétonisation.
Alors ça c'est important parce que
inutile.
Voilà, mais on remet les choses en perspective. On croyait donc les terres fertiles de ce triangle de Gonesse sauvées par de la destruction avec l'arrêt donc de ce Repas City complètement dément. Donc erreur, parce que là on appelle assez récemment, la cour administrative de Versailles a rétabli le PLU, ce qui veut dire que cette gare, peut-être dans les champs, enfin, elle n'existe pas encore, hein, et la ZAC peuvent être réactivées.
Exactement. Et c'est ça, l'aberration, c'est que il se prépare une gare en catimini. Marie pourra vous le confirmer. Les agriculteurs ont reçu une notification de la Société du Grand Paris qui a annoncé une reprise imminente des travaux de cette gare qui ne dessert donc plus aucun projet puisqu'il n'y a plus de projet réellement. Sur ce territoire, si, enfin, il y en a un qui est de sauver les terres agricoles, de transformer l'agriculture et de créer des emplois utiles. sachant que c'est un territoire qui a été très durement touché par la pandémie. On est entre les deux aéroports, donc vous imaginez bien l'effet que ça a eu sur la population. Alors, ils ont moins d'avions au-dessus de leur tête, donc moins de bruit, ils dorment mieux. Mais il y a vraiment un problème d'emploi très, très grave qui se pose. Et Karma, le projet Karma, là, il prend un caractère d'urgence, en fait. Il faut démarrer et on est prêt. À Karma, on est prêt à démarrer une ferme horticole, à remonter la filière horticole régionale. On est prêt à démarrer une ferme maraîchère, on est prêt à former des jeunes, qui viennent de plus en plus nombreux nous
Alice,
voir. Ils sont
ça,
là,
ça, on l'entend, on l'a dit effectivement aussi dans le reportage, mais donc quand je parlais de ce pot de terre, on va dire de terre nourricière contre la toupie en béton, si on garde la gare, c'est quand même on a quand même une intention d'étaler la ville. Sur quoi on va vous dire aussi que bah, les gens ont besoin de se loger, etc. Donc qu'est-ce que ça va être
alors,
là maintenant
pas,
la suite
de logement. Ouais, c'est une très bonne question. Mais il n'y a pas de possibilité de logement parce qu'on est sous les avions. Donc, pas de logement. Mmh. Centre commercial, bah, la zone est saturée. Des hangars de logistique urbaine, la zone est aussi saturée.
Le bureau fait du télétravail.
Les bureaux, il y en a vraiment moins besoin. Et donc l'urgence, c'est de sauver ces terres agricoles. Donc on s'est réunis le 17 janvier, vraiment l'urgence. On pensait qu'il y aurait, je sais pas, 200, 300 personnes qui viendraient. On était pratiquement un millier à signer le serment du triangle par lequel on s'engage à défendre ces terres contre la bétonisation. Parce qu'on a des élus qui continuent à faire croire que pour aménager un territoire, il faut le bétonner.
Alors, ce serment du triangle, on va pouvoir le retrouver, si vous le souhaitez, donc sur le site de CO2 Mon Amour. Merci à vous, donc, Alice Leroy. Et puis, bonne suite, donc, à vous toutes et à vous tous. Et pour cet éclairage que vous nous avez donné, merci à Tiffany Battistel, aujourd'hui la technique, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia, qui a réalisé l'émission. Et puis, comme j'ai eu le 06 d'un lynx, eh bien, la semaine prochaine, il est d'accord pour parler. Donc, je vous emmènerai donc dans le département, dans le Jura. On ne dira pas où, d'ailleurs, précisément. Et avec Didier Pépin, quand même, qui va aussi un peu traduire ses dires. Donc, ce sera vraiment très naturaliste la semaine prochaine.